la matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Aujourd'hui, je voulais parler d'espace. Oui, c'est au sommet Choose France, le 1er juin, qu'Emmanuel Macron a annoncé un accord avec la start-up américaine Vast pour envoyer deux astronautes français dans l'espace. Les deux missions sont prévues pour 2027 à bord de fusées Falcon 9 de SpaceX, dont l'une avec Arnaud Prost vers une station commerciale privée. De nombreux enjeux sur la table, économiques, scientifiques, mais ce qui pose problème, c'est toujours la même chose, l'empreinte carbone. Un lancement du Falcon 9 correspond à l'émission d'environ 336 tonnes de CO2, soit l'équivalent de l'empreinte carbone d'une centaine de passagers en classe éco sur un vol Genève-New York, aller-retour. On pourrait parler de solutions vertes avec la réutilisation des fusées, mais l'effet rebond derrière la manœuvre est tout simplement de rendre les lancements moins coûteux et donc plus nombreux. Il est aussi important de noter que ce sommet était sur l'attractivité économique, mais pas sur la science. C'est donc l'arbre qui cache la forêt, car la start-up ambitionne de privatiser l'orbite basse et à terme de créer un tourisme spatial pour les plus fortunés, bien évidemment. Et moi, je vais continuer de boire avec une paille en papier. Dans cette édition, nous allons parler avec Ruggero Iori, interviewé par Alice. Une enquête sur l'état social, particulièrement sur les assistantes sociales. Ensuite, nous aurons une autre interview avec de Déborah Cos par Ludmilla et Anna. Et la chronique libre de Eve, la chronique actu de Betty sur la reconnaissance par l'État sur sa responsabilité de l'exposition des populations antillaises au chlordécone et ses risques sur la santé.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Donc bonjour Ruggero.
Bonjour.
Bonjour Alice, salut.
Et merci Ruggero Iori d'être avec nous ce soir pour parler de votre dernier ouvrage « À l'école de l'état social, des assistantes sociales en formation en France et en Italie » qui va paraître aux éditions du Crocan dans la collection « Sciences sociales et éducation ». Le but de cette recherche est simple, analyser ce que ces écoles de formation font aux étudiants, étudiantes et à ses futurs étudiants. Vous avez mené ce travail de thèse en sociologie car vous êtes sans surprise un sociologue, mais également maître de conférences en sciences de l'éducation et de la formation à l'université de Cergy, membre du laboratoire EMA École Mutation Apprentissage et affilié au Centre d'études de l'emploi et du travail. Maintenant qu'on a fait les présentations et avant d'en savoir un peu plus sur les tenants et les aboutissants de votre thèse, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment et pourquoi vous avez décidé de travailler sur ce sujet des assistantes sociales en formation et aussi d'y avoir ajouté une partie comparative entre la France et l'Italie ?
Merci beaucoup pour l'invitation déjà. Donc effectivement, il s'agissait de comprendre, un peu aller au-delà d'un discours institutionnel, médiatique, professionnel, qui mettait en avant des vocations au travail social, des vocations des assistants sociaux, des passions, des engagements. Il s'agissait d'enquêter un peu de quoi, en fait, c'était fait, ces vocations, ces passions, ces engagements. Je les avais déjà auparavant, dans d'autres travaux, étudiés aussi au travail. Et je me suis dit, pourquoi pas aller les voir en fait pendant ces temps de la formation, sachant que une fois interviewés, une fois diplômés, ces étudiantes, ces assistantes sociales, mettaient ces travailleuses sociales, mettaient aussi souvent en avant les faits que le métier s'apprenait en fait sur l'État, dans on fois en métier, on fois en tout cas dans le poste de travail. Et du coup, je me disais, mais à quoi servent en fait ces 3 ans des formations? Ils sont quand même importants. C'est des moments où elles sont en stage, davantage des femmes forcément, d'où les termes d'assistantes sociales. Donc, sont davantage en stage, en école. Mais qu'est-ce qui se passe en fait pendant ces 3 ans? Il s'agissait un peu de voir, voilà, qu'est-ce qui se passe. Et tout cela, en fait, s'inscrit aussi dans un débat un peu professionnel sur l'universitarisation, en fait, de ces formations. Est-ce que ces formations se rapprochent ou pas de l'université? Et donc, de là, en fait, l'idée aussi comparative de aller voir qu'est-ce qui s'est passé, en fait, en Italie, à ces moments-là, et de comparer, du coup, une formation formation française qui est davantage dans des écoles régionales, dans des IRTS, dans des centres de formation, et de l'autre côté, la formation en Italie, où c'est fait à l'université, du coup, de voir un peu tous les aboutissements de ces processus.
Alors, votre thèse s'est matérialisée en une véritable enquête empirique. Alors, ça veut dire que vous étiez, vous l'avez dit, au plus proche de ces assistantes sociales. L'enquête a duré 6 ans, entre 2012 et 2017, et dans 4 établissements différents, donc entre la France et l'Italie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la méthode de travail que vous avez utilisée et comment elle peut ou non influencer ou, disons, orienter la recherche ?
Alors, effectivement, j'ai procéder avec ce qu'on appelle aujourd'hui des méthodes mixtes, c'est-à-dire une enquête quantitative et qualitative en sociologie. Mais comme vous l'avez dit, il s'agissait un peu de voir au plus près en fait ces étudiantes. Donc j'ai fait des questionnaires, enquêté d'une manière quantitative un peu leurs motivations, leurs orientations, voir un peu leurs propriétés sociales. Mais je me disais ça ne peut pas suffire en fait pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Et donc je suis rentré dans ces 4 instituts de formation, donc 2 universités et 2 centres de formation en France, pour voir en fait et suivre tout le long de 3 ans de formation, donc dès l'entrée, dès la sélection passée, donc des premiers pas en école, ces jeunes étudiantes jusqu'à la sortie, et donc pour voir aussi est-ce que tout le monde arrive ou pas à la sortie. Donc il s'agissait un peu de mixer les méthodes pour voir à la fois de manière quantitative un peu les déterminants aussi de ces choix, les déterminants de ces orientations, de manière globale en fait, c'est qu'ils aimaient ou pas d'une année sur l'autre, c'est qu'ils faisaient comme expérience en stage. Et de l'autre côté aussi, les interviewer quotidiennement, en tout cas dans les écoles, au moment où j'étais en fait avec elles dans les cours, et aussi en fait régulièrement, une année sur l'autre, pour voir aussi les changements des discours qu'elles pouvaient tenir en fait d'une année sur l'autre.
Alors pour revenir davantage au cœur de la recherche de votre thèse, vous commencez votre ouvrage par une introduction, jusqu'ici tout est normal, et au tout début de cette intro, vous citez Manuel Valls dans l'une de ses déclarations alors qu'il était encore Premier ministre en septembre 2015, je le cite, vous êtes en un mot des femmes et des hommes, des femmes en majorité, de conviction, engagées, passionnées, on ne devient pas travailleur social par hasard, c'est la marque d'une envie d'être utile aux autres, de porter cette belle idée de solidarité sans laquelle nos sociétés perdraient leurs âmes. Votre enquête confirme-t-elle cette citation de Manuel Valls ou au contraire, elle la nuance? Et si oui, en quoi?
Alors, les contextes de cette citation sont forcément faits aussi dans une période de valorisation des travailleurs sociaux comme agents des quartiers au lendemain des attentats de 2015. Donc, où il y avait effectivement l'idée de faut aller aussi au plus près des quartiers pour rétisser les liens sociaux et aussi contrôler un peu ces jeunesses populaires un peu dangereuses. Mais effectivement, il s'agissait un peu, et c'est pour ça que je le mets en exergue de l'ouvrage, d'aller un peu à l'encontre de ces discours institutionnels qui met en avant en fait cet engagement, cette passion, ces qualités un peu naturelles des femmes à l'engagement pour autrui, au care, plus globalement. Et donc de voir un peu comment ces qualités perso, en tout cas la mise en avant de ces qualités perso, cachent aussi derrière une pénibilité du travail en fait et des déterminants, des propriétés sociales assez précises qui s'y jouent en tout cas dans les interstices en fait de l'état social.
Oui, justement, vous commencez à parler de la pénibilité du travail, parce que la réalité d'être assistante sociale, c'est effectivement des conditions de travail difficiles, des horaires qui sont souvent irréguliers, on peut travailler souvent en soirée, le week-end. J'ai quelques chiffres à donner pour qu'on se représente la chose. 32% des professionnels du social ont des horaires variables, donc d'une semaine sur l'autre. 43% travaillent le week-end, 25% en soirée. C'est aussi une précarité qui est souvent plus importante que pour les autres salariés. 45% des professionnels travaillent à temps partiel contre 15% pour les autres salariés. Et c'est pas toujours un choix d'être en temps partiel. Il y a 30% des professionnels qui le sont car ils n'ont pas trouvé d'emploi à temps complet contre seulement 23% des autres salariés. Et elles sont aussi dans l'ensemble plus âgées et moins diplômées que les autres salariés. Comment est-ce que dans les formations, comment est-ce que les formations, les recruteurs, ils prennent ça en compte, ces réalités sociales-là, et comment est-ce qu'ils les intègrent dans le discours? Parce que bon, on ne peut pas cacher aux futures assistantes sociales que potentiellement elles vont travailler un week-end, que leurs horaires ne seront pas réguliers. Comment est-ce qu'ils prennent ça en compte?
D'où l'insistance sur la vocation, sur la passion, sur l'engagement. Et l'idée, c'était aussi effectivement de montrer que pendant ces 3 ans et pendant leurs cours, pendant leur sélection, ces centres de formation mettent justement l'accent sur cet engagement pour, en, d'une certaine manière, aussi mettre à distance en fait la pénibilité au travail. L'idée, c'est d'être au plus près en fait de des populations de l'action sociale, de mères isolées, des enfants à prendre en charge, des femmes surendettées, des familles monoparentales, de jeunes détenus en fait, de tout un tas variables en fait de populations de l'action sociale. Et donc l'idée était vraiment de insister pour qu'ils tiennent en fait une fois au travail. Et donc, mine de rien, il y a un peu l'idée de... ça parle pas trop, en fait, des conditions de travail pendant les 3 ans. En gros, on délègue, en tout cas, les écoles délèguent en partie au terrain des stages, au site référent, cette connaissance, effectivement, du terrain. D'où, en fait, j'insiste un peu dans l'ouvrage, mais des claques, en fait, que peuvent avoir les étudiantes une fois sur les terrains, où elles se rendent compte que les métiers ne représentent pas forcément ce qu'elles s'étaient imaginées quand elles étaient en formation ou lorsqu'en fait elles avaient candidaté pour entrer dans ces formations. Donc finalement, pénibilité qui fait que, qui est un peu, voilà, un peu aussi cachée parce que les centres de formation ont intérêt en fait que des diplômés puissent aller en fait au bout des 3 ans de formation. C'est des formations privées, donc...
coûteuse.
Déléguée, en tout cas par l'État, par les régions, par les collectivités territoriales. Donc il y a l'idée de des centres de formation qui sont financés aussi pour les taux d'insertion en fait qu'ils ont après les taux des diplômes en fait qu'ils ont au bout de 3 ans. Donc l'idée c'est vraiment perdre en tout cas les moins possible d'étudiants. Mmh. Contrairement, on peut se dire à l'université où on a moins en fait dans notamment des premiers cycles en fait en licence, en sciences humaines et sociales, on a moins en fait cette attention à l'insertion professionnelle directe au bout de 3 ans à licence.
Est-ce que vous avez constaté en 6 ans d'enquête, justement après que des étudiantes se soient pris des claques, vous dites, est-ce qu'il y a des étudiantes qui abandonnent en cours d'année ou après une seule année passée au cours de du cursus, est-ce que ça vous a frappé ça ou...
C'était effectivement un apprentissage assez assez étonnant de cette enquête où je m'attendais pas vraiment. J'insiste dans vers la fin en fait de l'ouvrage sur la manière dont finalement un tiers en fait des étudiantes n'arrivent pas au bout de leur formation. Et alors qu'en fait les centres de formation ont tendance aussi à pas montrer en fait ces abandons comme je disais à l'instant. Donc c'était très étonnant. Après les raisons sont très différentes. Hein. Il y a effectivement des types différents aussi d'étudiantes qui s'orientent vers ces métiers, des types différents aussi donc, d'orientation, d'aspiration, d'âge, de propriété sociale qui expliquent aussi certains rapports à la formation au métier. Mais effectivement, toutes n'arrivent pas au bout des 3 ans. Et donc finalement, une partie confrontée au terrain, confrontée à la réalité du métier, mais la réalité aussi purement professionnelle. Hein. Une assistante sociale doit rédiger des rapports pour les juges des enfants, elle doit mettre en place des démarches administratives. Et effectivement, si on y arrive avec une idée fortement vocationnelle d'aide aux autres, de penser qu'on est au plus près de cette population-là, bah, on risque de se dire bah, « c'est pas tout à fait ce que j'imagine ». Et avec des étudiants d'autant plus d'origine populaire, qui ont aussi un rapport à l'écrit qui n'est pas les mêmes, en fait, des assistantes sociales du début du XXe siècle, qui est un peu l'origine aussi de cette formation.
Et comment est-ce que justement les écoles, elles présentent le lien un peu particulier que les assistantes sociales vont nouer avec le public qu'elles vont rencontrer ? Vous parliez des mères isolées, des fois il y a des problèmes familiaux avec des enfants qui peuvent être maltraités, etc. Est-ce qu'il y a une feuille de route à suivre qui est assez spécifique et qu'elles apprennent au bout des 3 ans ? Ou comment est-ce que l'école, la formation, met en œuvre ce lien particulier qui est assez intime justement, parce que ça touche à la famille ?
Alors, la formation d'assistante sociale, c'est très technicisé au fil de décennies. En fait, c'est une formation qui date des années 20, années 30 en France. Donc, ça a un siècle, en tout cas, d'histoire. Et du coup, aussi, les compétences, le métier, c'est très technicisé. Donc, il y a proprement des techniques aussi de suivi. C'est qu'en tout cas, on appelait en anglais les social casework, donc tous des cas individualisés, tous des cas collectifs, les community work. En tout cas, c'est tout un tas de de méthodes, en tout cas, qui ont été aussi théorisées dans des manuels, notamment aussi outre-Atlantique. Je reviens dans le premier chapitre, notamment sur l'histoire aussi de ces méthodes, l'histoire de ces formations et de ces écoles. Donc forcément, ce n'est pas juste en fait des compétences personnelles, mais ces compétences un peu personnelles, genrées, un peu naturalisées, sont effectivement reproduites une fois au travail. Et donc forcément, on véhicule aussi des normes de genre et des normes de classe, donc de classe moyenne dans ces cas-là, auprès de ces jeunes femmes qui s'orientent vers ces publics. Et c'est vraiment un accent sur l'individu en tant que tel de population sociale qui permet aussi d'évacuer et, une partie des déterminants aussi sociaux des populations de l'action sociale. Mais on y insistera peut-être après.
Oui. Super. Et on continue tout de suite après. Les clopes, je fume des clopes dans un blockhouse noir parce que je suis déprimée. C'était les clopes, je fume des clopes dans un blockhouse noir parce que je suis déprimée. Et tout de suite, on continue avec Roger Royeri, interviewé par Alice.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Juste avant la pause musicale de Klopp, on s'intéressait au fait, enfin, vous nous disiez que il y avait des reproductions genrées, normées dans ces formations, mais peut-être juste avant, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment est-ce que vous étiez reçu et perçu par les futures assistantes sociales en tant qu'homme qui va enquêter dans un milieu extrêmement féminin?
De toute façon, oui, c'est j'étais rarement en fait incognito, quoique au tout début en fait des cursus, il y avait quelques hommes. Il y en a très peu, hein, il y a environ 5% d'hommes au niveau national dans ces formations d'étudiants. Et il y a effectivement aussi des fois des étudiants plus âgés en fait que la moyenne de post-bac. Donc au tout début, je pouvais un peu passer, pas un incognito totalement, mais quand même, on me voyait bien dans la salle. Après, je suis allé à découvert, hein, disons clairement, en fait, l'objectif aussi de mon enquête, qu'il s'agissait un peu de voir un peu comment elle devenait assistante sociale. Et j'étais plutôt bien reçu, en fait, à la fois par les écoles, qui étaient aussi, disons... preneuse en fait d'avoir un retour en fait sur leur type de formation, une reconnaissance aussi de chercheurs en fait qui s'intéressent à leur formation, et dès l'autre des étudiantes aussi qui se disaient ah bah oui c'est intéressant, viens on s'est confié un peu à toi, et en même temps le fait que j'étais pas en fait un formateur, que j'étais pas un enseignant de l'école,
quelqu'un d'extérieur,
ça permettait aussi des fois de sortir un peu et pour elle aussi de faire les points en fait d'une année sur l'autre autour de ça, donc un peu aussi des sortes de petites confessions que je pouvais avoir au-delà d'un jeu en fait pendant une pause café ou d'un repas collectif ou effectivement de proprement de l'échange d'entretien plus formel qu'il pouvait y avoir, quoi.
Alors, on parlait donc encore une fois du rôle normé et genré de l'assistante sociale, un métier qui accompagne, qui écoute, qui est patient, bienveillant. Donc voilà, toutes ces qualités souvent sont très genrées et on dit que ce sont des traits de caractère, enfin on les attribue en tout cas en grande majorité aux filles, d'où le fait aussi qu'elles soient largement représentées dans ce métier et dans les formations. 9 professionnels sur 10 sont des femmes. Est-ce que les écoles arrivent, elles, à se détacher de ces normes sociales ou genrées?
Elles les questionnent très peu. C'est ce qui m'a étonné les plus aussi en arrivant un peu dans ces cursus, c'était, je m'attendais qu'ils puissent avoir, et d'autant plus récemment aussi, hein, des cours par exemple sur les genres, des questions en tout cas autour de ces thématiques en fait dans les cours, il y en avait très très peu, et souvent en fait par des vacataires universitaires qui venaient ponctuellement en fait faire des interventions là-dessus, mais qui étaient aussi souvent désancrés en fait du fonctionnement purement du métier. Et au contraire, en fait, ces écoles reproduisent effectivement ces types de normes, reproduisent à la fois ces normes qui sont des normes de genre, des normes de classe sociale, comme je disais tout à l'heure, la manière de la posture. Il y a dans la sélection même, en fait, des questionnaires adressés aux formateurs c'est donc au jury, en fait, qui sélectionne pendant un oral. Donc, aujourd'hui, c'est passé à Parcoursup, mais les écoles ont maintenu, en fait, un oral de sélection. Et il y avait effectivement aussi dans les manuels. Pas montrer des signes de stress, des plaques rouges dans les visages, pas montrer des tatouages. Il faut être sérieux, il faut s'habiller sérieusement. Un peu aussi un rappel d'une sorte d'une assistante sociale d'avant-guerre, un peu des années 30, qui venait un peu moraliser aussi le peuple des classes populaires, en fait, comme tout un tas de travaux l'ont montré. Il y a en tout cas un ouvrage aussi de Lola Zappi, qui est historienne à Paris 1, qui montre bien, en fait, comment même à l'époque, en fait, ces assistantes sociales dans les stages, dans les cours on insistait aussi sur leur posture, ce qu'on appelle en sociologie un peu l'exercice corporel, c'est-à-dire voilà, toute leur manière de s'éporter, et il y a aussi des cours là-dessus, on y insiste un petit peu, et du coup forcément ça reproduit aussi les normes de genre. Il ne faut pas apparaître trop exubérante en fait dans les cours, il faut tenir sa place, et forcément c'est aussi une place du coup qui est une place professionnelle, mais qui est aussi une place de classe sociale, c'est-à-dire qu'on est un métier de classe moyenne et pas du coup avoir des ambitions un peu trop loin.
Comment est-ce que les personnes, les étudiantes que vous avez enquêtées se situent-elles par rapport à ces reproductions de normes? Est-ce qu'elles en ont conscience? Est-ce qu'elles le questionnent au contraire des formations?
disons que celles qui les questionnent sortent aussi en fait de ces formations. La plupart y adhèrent aussi. Après, c'est aussi des jeunes étudiantes qui sont en tout cas moins armées ou peu armées, en tout cas d'où la formation intervient peu en fait à questionner ces normes. Donc il y a des cas où je montre par exemple du petit bizutage en fait fait aux étudiants des premières années par les deuxièmes années où voilà, les étudiantes se présentent comme des fausses formatrices et pendant ces moments de un peu théâtral de fausse intégration, elles reproduisent en fait des normes de genre en disant ah ben voilà, on va vous faire des cours sur l'hygiène, sur la cuisine, on va enseigner l'arabe, le roumain, un peu aussi derrière caricaturant aussi un peu les populations des actions sociales qu'elles seront amenées à prendre en charge une fois les 3 ans passés, quoi.
Alors, votre ouvrage est structuré en 2 parties. La première concerne les conditions historiques et sociales de la vocation au travail social. Et vous avez notamment consacré le premier chapitre à la naissance des mères universelles. Qu'est-ce que cette expression implique et sous-entend ?
Il s'agissait un peu, je l'évoquais au tout début, de restituer aussi la centralité des écoles et la naissance de ces formations dans une période particulière qui est celle du début du XXe siècle. Où en fait l'État, qu'on n'a pas cité jusqu'à présent, mais qui est très important et très central là-dessus, décide aussi de déléguer une partie de son pouvoir, en quelque sorte, à des centres de formation privés pour former en fait ses propres agents, qui sont censés du coup moraliser les peuples. C'est une période du coup du XXe siècle, il y a beaucoup de révolutions, beaucoup d'émeutes, il s'agissait aussi du coup de contrôler, de moraliser effectivement les femmes, globalement, et donc de là les mères universelles, et aussi les populations qui, voilà, étaient dans des fléaux sociaux, donc avec l'idée de la tuberculose, de l'alcool, en fait, qui était très important à l'époque, et donc de former, en fait, des agents qui étaient censés de rétisser un peu les liens sociaux auprès des populations et aussi calmer, en quelque sorte, les masses populaires pour les intégrer aussi dans l'État. C'était les rôles de l'éducation nationale d'un côté pour les institutrices, mais de l'autre, en fait, pour toute cette population qui ne rentrait pas, en fait, un peu dans les cases de ça, on crée, en fait, les surintendants d'usine, on crée des assistantes sociales, des travailleuses sociales, qui sont à l'époque les seuls métiers, en fait, un peu phares du ministère des Affaires sociales, du ministère de la Santé. Donc, il s'agissait un peu dans cette première partie de l'ouvrage de revenir sur tout ça et de montrer comment, en fait, cette formation se situe aussi au croisement de la philanthropie, de la religion catholique et de pouvoir public, en fait, et de l'État là-dedans, comment, en fait, il décide de déléguer, en fait, sa formation des agentes de l'État social.
La partie 2, vous l'avez intitulée « La fabrique des assistantes sociales ». Alors, vous allez nous commenter ça, mais quand on fabrique le métier d'assistante sociale, c'est forcément qu'on va être influencé dans la façon d'exercer ce métier par la suite.
Il s'agissait effectivement, après avoir donné de l'histoire, après avoir montré aussi les orientations, les ambitions de ces jeunes étudiantes en formation, de voir concrètement comment les écoles, les centres de formation construisent en fait ces futurs professionnels et comment elles les forment du coup aussi à une docilité bureaucratique, en quelque sorte, à tenir leur place, à tenir les métiers, à du coup reproduire en quelque sorte aussi des normes de genre et des classes. Mais aussi tenir une position sociale tout en voilà en psychologisant, en individualisant en fait les populations de l'action sociale sans forcément remettre en cause les déterminants, les propriétés sociales de ces personnes, de ces populations qui effectivement peuvent questionner plus en fait ces agents.
Oui, j'allais dire, c'est ce que je trouve très intéressant dans l'ouvrage, c'est que vous expliquez que les agentes de l'État social sont à la fois dominantes par rapport au public qu'elles vont rencontrer, parce qu'elles sont voilà en position dominante donc, et qu'elles rencontrent et qu'elles accompagnent, mais en même temps elles sont elles-mêmes dominées par rapport aux politiques sociales qu'elles doivent suivre, qu'elles doivent appliquer, et ça c'est vraiment quelque chose qui ressort, cette dualité depuis la création en fait des assistantes sociales.
Il y a effectivement toute une littérature en sociologie et en sciences politiques qui a mis en avant ce qu'on appelle les street level bureaucracy, donc les agents de terrain en fait qui ont du coup un pouvoir discrétionnaire en fait sur leur population. Mais effectivement, certes, ils ont un pouvoir, mais ils sont aussi dominés en fait par les politiques sociales. Et on en a pas trop parlé, mais par tous ceux qu'en fait changements qu'il y a eu des politiques sociales ces derniers 20 ans, 30 ans, mais au-delà aussi dans les services publics, à l'hôpital, dans l'éducation nationale, dans la santé au sens large, de l'État qui met en place des lois, des politiques, des dispositifs voués à responsabiliser l'individu. Il a donc besoin aussi des agentes en fait, qui les mettent en place, ces dispositifs.
En une minute, parce qu'il me reste une minute, j'évoquais le fait que du coup la thèse compare la France et l'Italie. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous donner une ou deux différences et ressemblances entre les deux pays ?
Très dur en une minute, mais effectivement, il s'agissait de voir comment, en fait, d'un côté, l'universitarisation de la formation italienne pouvait aussi montrer des différences dans cette construction, dans cette fabrication de l'assistance sociale. Et finalement, j'ai vu pas mal des ressemblances, en fait. Où j'ai trouvé que même au niveau universitaire, la formation italienne forme aussi ses agentes en fait dès l'état social, mais avec des contextes aussi professionnels qui ont un peu changé, avec un contexte français qui est plus en tension, c'est-à-dire qu'on peut trouver plus facilement travail au-delà des 3 ans, et un contexte italien qui a délégué, disons, en plus ces positions-là au monde associatif, en tout cas des boulots plus précaires en fait. C'était là qu'il s'agissait un peu de voir les différences et les ressemblances, pour voir aussi formellement que dans ces cas-là, les écoles, ces centres de formation, ces écoles de l'État social forment dans les deux cas des petites classes moyennes féminines qui sont censées tenir en fait l'État social.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup, c'était très instructif. Et pour rappel, le livre de Ruggero Iori, À l'école de l'État social. Et tout de suite, on écoute Billy Boyo in the area.
Y el bilboyo, así claro. Yo macho pa' india ser pía. Yo malo. Yo sí que yo sad, I yo lost all of the air. Bilboyo, come to make a musical glad. My God. Can't believe boy in the era, murderer. Can't yellow man in the era, murderer. Can't put pataya in the era, murderer. Can't live on cliff in the era, murderer. Billy boy on the root, me say and culture. Can't believe boy on the sentiment, you murderer. Come on, me drink soft drink, and sometime liquor. I drink soft drink, and sometime liquor. Tell you, Billy boy, you at the mic center. And anyway, me got a roots and culture. Little arena, the era, murderer. Cause Billy boy, you not the era, murderer. Cause yellow man, you not the era, murderer. Cause me say fathead, not the era, murderer. Cause Welton arena, the era, murderer. Cause me say burro, not the era, murderer. Cause Peter Machen, not the era, murderer. Cause little arena, the era, murderer. Cause me say Harry come from far and come a Oakland. Me say when we there at Oakland, say we ram session. Cause me and little Harry in a combination. Cause tell you believe when I run competition. Cause me too international. Jamaica till you say me too international. Jamaica till you believe boy you in the partial. Jamaica till you believe boy you well official. Jamaica till you believe boy you in the local. Cause watch a man. Anywhere me go, well official. Cause sometime in a BMW, sometime rental. The other time me blast pass Port Royal. The other time me blast pass in Central. Can't Billy boy yo, him no go a funeral. Little arena the era, murderer. Can't Billy boy yo na the era, murderer. Cause John Jolas in a the era, murderer. Cause Oakland pass in a the era, murderer. Cause London pass in a the era, murderer. Can New York pass in a the era, murderer. Can Canada pass in a the era, murderer. Anywhere me go, the mic chanting. Little Harry at the mic, me say enchanting. Yellow man at the mic, me say enchanting. Well done Harry at the mic, me say enchanting. Me say Buro at the mic, me say enchanting. Little John at the mic, me say and singing. Little John in the era, murderer. Come Billy Boy on the root and culture, murderer. Come Billy Boy na sense mania, murderer. Pa yellow man in the era, murderer. Pa Tayan in the era, murderer. Most DJ when them run out of lyrics. Most DJ them a go like gimmicks. When me dey a school that a cheese country. Listen for me lesson man, me true wriggleism. But when me in a dance that a strictly Guinness. Billy Boy in a the era, murderer. Little arena the era, murderer.
C'était Billy Boyo, Billy Boyo in the area. Et tout de suite on écoute la chronique actuelle de Betty sur le chlordécone.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Bonsoir Betty.
Bonsoir Jeanne, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, il me semblait important de parler de chlordécone. Mais peut-être il faut qu'on commence par dire ce que c'est que le chlordécone. Eh bien, il s'agit d'un pesticide pouvant avoir un impact nocif sur la santé des humains qui a été utilisé dans les bananeraies des Antilles, en Guadeloupe et en Martinique, entre 1972 et 1993 afin de lutter contre un insecte ravageur, le charançon. Le chlordécone, qui est un pesticide très invasif et résistant, a petit à petit pollué les rivières et les sols antillais et entraîné une exposition à plus de 90% de la population de ces îles à cette molécule toxique classée par les autorités sanitaires comme pouvant provoquer des atteintes neurologiques, des perturbations du système hormonal, des troubles de l'appareil reproductif, des retards cognitifs chez l'enfant et un accroissement du risque de survenue de certains cancers, dont le cancer de la prostate. Son accumulation dans l'organisme est considéré pour certains experts comme plus néfaste pour l'être humain que le glyphosate. C'est vous dire sa dangerosité. En dépit d'une interdiction de l'utilisation de ce pesticide aux États-Unis dès 1977, après des alertes formulées par l'Organisation mondiale de la santé quant à sa dangerosité, notamment neurologique, la France, elle, par dérogation pour les seules Antilles, a maintenu l'utilisation de cette substance toxique et ainsi exposé la population de ces îles à des risques sanitaires très élevé. À noter que la Martinique est le territoire qui comptabilise le plus fort taux au monde de personnes atteintes du cancer de la prostate relativement à son nombre d'habitants. Hier, mardi 2 juin 2026, plus de 30 ans après l'arrêt d'utilisation de cette substance, le Parlement a adopté une loi reconnaissant, entre guillemets, la part de responsabilité de l'État français dans le scandale du chlordécone aux Antilles et la contamination de la population à ce pesticide. Naïma Mandchou, ministre des Outre-mer, a indiqué, et je la cite, qu'il s'agit par cette loi de reconnaître que des décisions ont été prises, que des alertes existaient et que les protections qui auraient dû prévaloir n'ont pas permis d'éviter les conséquences que nous constatons aujourd'hui. Il s'agit d'un petit pas dans la reconnaissance de l'État français de sa responsabilité dans ce scandale. Petit pas, puisque la notion de responsabilité a été retoquée au Sénat pour inscrire dans la loi la mention d'une part de responsabilité, mais aussi car l'État reconnaît l'indemnisation des familles comme un objectif à atteindre sans pour autant préciser ses modalités. Il reste donc beaucoup de chemin à parcourir. Pour continuer la réflexion autour de ce scandale et ce qu'il dit du rapport que l'hexagone institutionnel entretient avec les Antilles, je vous conseille vivement d'écouter la série de documentaires consacrés à ce scandale sanitaire intitulé Chlordécone, le polluant néocolonial, à retrouver sur la plateforme de Radio France, sur la station France Culture. Ce documentaire revient sur la genèse de l'utilisation de ce pesticide, sa commercialisation par les Béquets, les propriétaires blancs descendants de colons, et interroge la réactivation de la question coloniale aux Antilles.
Merci beaucoup Betty. Et tout de suite, on va écouter l'interview de Déborah Coste menée par Ludmila et Anna sur son recueil mêlant poésie et pornographie, Te rappeler que nous sommes des chiennes.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Bonsoir. Alors la semaine dernière, c'était la canicule. Vous l'aviez senti, la chaleur s'est installée partout. Et peut-être que celle-ci ne se limite pas à la météo, mais peut se répandre jusque dans votre librairie. En effet, il y a des livres qui brûlent, des livres qui dérangent, qui désirent, qui refusent de s'excuser. C'est le cas de l'ouvrage « Te rappeler que nous sommes chiennes » paru aux éditions Prisme la semaine dernière. Un texte de poésie pornographie, sensuel et politique, dans lequel le désir lesbien s'écrit sans détour et sans filtre. Pour en parler, nous
nous recevons aujourd'hui au téléphone son autrice, Déborah Coste, écrivaine et travailleuse du sexe. À mes côtés pour cette interview, je suis aussi accompagnée de Anna. Bonjour Anna.
Bonjour.
Bonjour Déborah, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci à vous.
Alors pour commencer, j'aimerais revenir sur votre parcours. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Et comment êtes-vous arrivée à l'écriture? Ou comment l'écriture vous a-t-elle trouvée?
Alors ça, c'est une vaste question quand même. Mais on va dire que j'ai sorti un premier roman sur le travail du sexe. Parce que je suis travailleuse du sexe. Et en fait, ça a été un tabou, un secret et une honte pendant si longtemps qu'un jour, pour moi-même, nommer les choses et me sortir de ce secret-là, j'ai commencé à écrire. Et finalement, j'en ai fait un livre que j'ai envoyé à une maison d'édition qui a été publié, du coup. Et je pense que tout ce que j'écris est un peu dans ce registre-là. C'est-à-dire, j'écris sur des choses qui ont été parfois difficiles pour moi, parfois honteuses. Et surtout, j'écris des textes que je voudrais lire. Et notamment le sujet de la sexualité lesbienne, par exemple.
Alors, votre premier livre, comme vous l'avez dit, c'était un roman plutôt biographique. Celui-ci, il rentre donc dans un nouveau registre, un nouveau genre, celui de la poésie pornographie. Alors, pourquoi exactement s'inscrire dans ce genre?
Oh, c'est une bonne question. En fait, je l'ai écrit et il est sorti comme ça. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse, mais je voulais aussi des images fortes sur le sexe et aussi sur le désir, parce que dans ce texte-là, il est beaucoup question de désir et qu'est-ce que ça fait d'être désirante en tant que femme envers d'autres femmes. Et je voulais des scènes de sexe écrites par une femme lesbienne avec d'autres femmes, qui s'adressent aussi à d'autres femmes lesbiennes, que ce ne soit pas un regard qui soit celui d'un homme ou de quelqu'un qui n'est pas concerné. Et voilà, c'est sorti sous forme un peu poétique et pornographique. Donc voilà.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, la pornographie lesbienne, on peut en voir, mais c'est toujours sous le point de vue d'un homme, pour le plaisir masculin surtout, et c'est rarement écrit comme dans votre ouvrage, rarement pour les femmes. Et du coup, ça, c'est ce qu'on comprend, c'était en fait votre volonté un peu première de rendre compte de cette passion lesbienne telle qu'elle est et selon celle qui l'expérimente.
Oui, oui, absolument. Et aussi, je trouve qu'on nous dépossède beaucoup de, en tant que femme en général, peu importe notre sexualité, mais de notre désir, de la puissance que ça fait d'être dans le désir et qu'est-ce que ça fait, où est-ce que ça nous mène, tout ce qui est aussi, ça peut être l'obsession, ça peut être aussi les blocages, enfin, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Et ça, je voulais vraiment en parler parce que je trouve que ça manque en littérature, quoi.
Mmh. Alors dans l'ouvrage, justement, vous ne pesez pas vos mots, le livre il est graphique, il est cru, même dans le titre, te rappeler que nous sommes chiennes. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être chienne?
Ah, ça, je l'écris beaucoup aussi, même dans mes autres textes. Être chienne pour moi, c'est déroger à la norme, c'est déranger, c'est être une femme qui dérange, que ce soit être une travailleuse du sexe, que ce soit ne pas obéir aux règles, que ce soit avoir une sexualité, une grande sexualité... L'écrire, la proclamer, ce genre de choses.
Et est-ce que du coup ce langage cru, c'était un aspect crucial du coup pour vous dans ce livre? Est-ce que c'était une manière de montrer justement sans artifice, de ne pas romantiser ce désir, de ne pas le rendre joli et un peu dans ce male gaze et surtout de le rendre visible du coup?
Oui, tout à fait. Oui, oui, bien sûr. Enfin, vraiment, en plus quand j'écris, j'ai vraiment envie de me rapprocher. J'ai envie qu'on sache de quoi je parle très vite. Parce qu'en fait, vu que ce sont des sujets tabous, parce qu'on ne va pas se mentir, la sexualité lesbienne, ça n'existe quasiment pas. Donc, j'ai vraiment envie de dire, qu'est-ce que c'est? De quelle partie on parle? De quoi on parle exactement? Du coup, ouais, c'est hyper important pour moi qu'on sache de quoi je parle quand j'écris.
Et est-ce que ça a été difficile de s'entourer pour ce projet? C'est-à-dire de trouver une maison d'édition, surtout dans le contexte actuel. On imagine que pas tout le monde est assez ouvert pour publier votre ouvrage. Comment vous avez fait?
Alors, Prisme est une nouvelle collection qui vient d'ouvrir par La Musardine, qui est la seule librairie érotique de France, et donc qui est tenue par quelqu'un de la communauté, et donc qui propose des textes écrits par et pour des personnes LGBT. Mmh. Et en fait, j'avais rencontré le libraire qui m'a dit « Il faut que tu envoies ton texte », parce qu'en fait, j'avais déjà écrit la majorité de ce texte, et j'avais envie de le faire publier, mais en effet, personne ne l'avait voulu jusqu'à présent. Et il m'a dit, il faut que tu l'envoies parce qu'il n'y a que des hommes gays qui l'envoient ce texte-là. Et là, je l'envoie. Je l'envoie tout de suite. Donc en fait, par biais de rencontres et aussi de circonstances, parce qu'elle vient de... Ça fait un an, je crois, qu'elle a lancé ses premiers textes. Enfin voilà, c'est comme ça que ça s'est passé.
Alors moi, je vais revenir sur votre premier livre, Reprendre corps. Dans celui-ci, vous parlez de comment vous expérimentez la sexualité avec... Enfin, vis-à-vis de vous, avec les clients. Vous dites que vous jouissez de vous-même avec les clients. Alors, comme vous disiez, ce premier livre, il se concentrait sur l'expérience de travailleuse du sexe et votre vision de la sexualité dans ce cadre-là. Pourquoi aujourd'hui se concentrer, du coup, sur une sexualité qui est plus personnelle, qui est hors de votre travail ? Comment votre profession de travailleuse du sexe, elle a déconstruit ou au contraire construit votre vision du sexe ?
Ah, ça aussi, c'est une large question. Je dirais que dans ce premier roman, je ne parle quasiment pas de ma sexualité. Donc, je parle de mon travail avec des clients qui est donc, pour moi, qui n'est pas ma sexualité. Et dans ce texte-là, il s'agit... Donc, c'est l'autofiction. Donc, il s'agit beaucoup de moi. Il y a aussi des choses que j'invente. Mais oui, je voulais parler vraiment de... Parce que ça, c'est, pour moi, c'est de la joie. Pas comme dans mon travail, qui reste un travail avec tout ce qu'il a de plus ennuyeux et... Mais là, c'est vraiment qu'est-ce que c'est d'être joyeuse dans sa sexualité Et même quand c'est pas joyeux, comment on le dépasse aussi.
Et vous dites aussi, exister en tant que femme, c'est exister en tant que pute de tous les hommes. Est-ce que écrire sur sa propre sexualité, sur une sexualité personnelle et lesbienne, c'est une manière aussi du coup de se réapproprier son corps ?
Ah oui, tout à fait. En plus, ce qui me rend très heureuse, c'est que dans ce livre-là, les hommes n'ont pas leur place à aucun moment. C'est-à-dire qu'ils ne sont concernés à aucun moment dans ce texte-là. ni dans mon désir pour ces femmes-là. Et donc, et oui, et aussi écrire son désir de femme, le mien, c'est aussi empêcher les autres de le raconter à ma place, de raconter ce que c'est d'avoir du désir et d'être sexuelle avec d'autres femmes, quoi.
Ok. Et est-ce que vous avez déjà eu des retours un peu sur ce livre, peut-être des clivages ou d'autres choses, ou pour l'instant tout s'est bien passé ?
Te rappeler que nous sommes chiennes ?
Oui.
Alors, pas trop, parce qu'il est sorti il n'y a pas longtemps, mais oui. J'ai eu... Je pense deux lesbiennes qui m'ont dit que c'était super, qu'elles avaient adoré. J'espère que ça va continuer comme ça.
Ben, on espère aussi.
Mais Déborah Coste, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour présenter votre nouveau livre, dont je rappelle le titre « Te rappeler que nous sommes chiennes », paru aux éditions Prisme, disponible dans toutes les librairies, je suppose. Avant de nous quitter, une dernière question. Quelles sont vos prochaines actualités, s'il y en a ? Est-ce qu'il y a des rencontres, des projets ou des nouvelles écritures que vous aimeriez partager avec nos auditeurs ?
Oui, j'ai une rencontre de prévue donc, sur ce texte-là le 17 juin au Mot à la Bouche, qui est... une librairie queer à Paris, et une autre, je crois, le 30 à Lille, à la Franchie librairie. Et voilà. Et sinon, je prépare d'autres textes.
Super, on attendra ça avec impatience. Alors.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bonne soirée, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Je suis pas dit merci, je crois qu'elle a pas raccroché. Okay, je voulais dire merci à Déborah. Très bien, merci Déborah et Ludmila et Anna pour cette interview. Et tout de suite, on écoute Tina Blues.
J'inventerai mon propre style, je provoquerai leur estime. L'heure est venue, je vais créer mon style. Y'a plus de retenue, provoquer leur estime. Avec mon stylo, le reste est imminent. Je ne serai plus timide, non, mes textes de la philo. Je suis pas dans les codes, j'ai pas les skis, j'ai pas les formes. Mais oui, je kick, je fais l'effort, tu sais. Pas de mode là, si j'ai formel. J'ai rappé dans les squats, dans les ads et les smacks. J'ai maudit tous les faves et aussi beaucoup de mecs. Je viens d'en bas comme les mecs de la scred. Parti de rien jusqu'au devant de la scène. Je voudrais que naissent et fleurissent partout les artistes qui sommeillent en nous. Sublimés par l'art, tous ces tourments. Et pourtant, qui est-ce qui tourne hein? Que des connards, comédies grotesques. Qui parlent de rien, surtout pas de l'essentiel. Sans déconner, gros, relis tes textes. Où sont tes questions existentielles? Je suis ni une bad bitch, ni un garçon manqué féministe comme Witch. Où vont-ils me caser? Inspiré par Kenny, Fanny, James et Kazé. Quelle place pour mes sista dans le rap français? Je représente pour les potes balafrés, se laisser pour compte. Inadaptés, celles qui galèrent à payer leur loyer. Tous les ouvriers en clair, ce qu'on n'écoute jamais. C'est du rap de prolo, du rap d'antifa. Mon rap, c'est du blues, c'est une intifada. Du rap de loser, mélancolie dans le cœur. Y'aura quelques haters, mais pas de flouze avec ça. Mon rap, c'est du blues. Catharsis sans la nommer. Inspiré par 12. Il a tant de trucs à donner, ouais. Dans tous les coins aussi
ma vie avait un sens. Je me suis perdue parfois et j'ai eu mal à la vie. Ay, una mala vida. Mais je vais pas rester plantée là. J'inventerai mon propre style. Je provoquerai leur estime. Je sais pas qui je suis, mais je me donne les moyens d'être celle que je voudrais être. J'écris des textes qui soient mon mal-être. Si bien que je ne peux m'arrêter, j'ai la rage dans le beat. C'est sûr que de ma musique j'en vivrai. Je ne serais pas gentille, j'y croirais, je m'en irais. Rapper, m'enivrer, même là où on voudra m'écouter, bah j'y serais. La vraie force est de nommer ses faiblesses. Laisse personne rabaisser les autres. Faire l'effort de rassembler, c'est réel. N'est-ce pas pour ça que nos sons résonnent? Je me méfie des gens se disant très avisés. À mon avis, c'est bien médisant dans le vaussaire. J'aime avoir le doute bien aiguisé. Que la certitude n'empoisonne pas mes viscères. Je l'entends, c'est la vraie rage. J'ai pas le temps de me ménager. Je suis propre, je le ménage. Et tout ça sans manager. Je me suis fait toute seule, j'ai besoin de personne. Je vis grâce à la scène, je suis à deux doigts de percer. J'irai décrocher tous les prix, tous les trophées. Fais les dédicacer à celui qui m'a percé. J'ai cherché dans tous les coins si ma vie avait un sens. Je me suis perdue parfois et j'ai eu mal à la vie. Ay, una mala vida. Mais je vais pas rester plantée là. J'inventerai mon propre style. Je provoquerai leur estime. J'ai cherché dans tous les coins si ma vie avait un sens. Je me suis perdue parfois et j'ai eu mal à la vie. Ay, una mala vida. Mais je vais pas rester plantée là. J'inventerai mon propre style. Provoquerait leur estime.
C'était Blues de Tina et tout de suite, on est avec la chronique libre de Eve sur les lundis.
La matinale de 19h.
Bonsoir. Alors, wouhou, quel démarrage ce mois de juin entre canicule et victoire du PSG. Comment peut-on encore avoir des climato-sceptiques en 2026? Mais non, c'est normal qu'il fasse chaud en été. Gérard, ton rideau brûle et nous ne sommes pas en été. Et puis lundi a recommencé, que des crises à gérer au boulot. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime pas le lundi. J'ai jamais aimé le lundi. C'est chiant les lundis. J'aimais pas non plus le dimanche parce que c'est le seul jour où, bibliquement parlant, tu es censé te reposer. Sauf qu'il y a une sorte de latence faille spatio-temporelle où tout semble ralentir et s'oublier. Et bim, dans ta gueule, c'est lundi, et t'as oublié pourquoi tu étais venu sur Terre. Les gens sont pressés, il y a une course contre le temps, et personne ne sait exactement où il va. Bon, je soupçonne le lobby des lundis des ponts de mai de faire du forcing pour abroger les lundis. Et souvent, à Radio Campus, quand il arrive le temps où tu dois pondre un texte pour ta chronique, bah t'as pas d'idée. Encore plus quand tu dois faire un pont, tiens encore des ponts, entre l'actualité de la matinale et les chroniques. Alors j'ai trouvé un point commun entre l'interview du jour et ma chronique, c'est assistance. Reprenons. J'aime pas le lundi et encore moins depuis que je travaille dans l'administration publique. Je dis pas trop fort. À la base, moi je voulais pas être fonctionnaire. C'est quoi ce métier? Se demande la petite Ève de 6 ans. Je voulais être pirate. Et pas cœur de pirate. Je suis pas fan de l'accent québécois, même si pro-Céline et pro-Québec. Entre pirate et assistante administrative, il y a plusieurs océans qui nous séparent. Je voulais être pirate pour bouffer de la viande grillée, trouver des trésors et bronzer sur la plage. La vie, quoi. En vieillissant, je m'aperçois que les vrais trésors ne sont pas des coffres remplis d'or, des pierres précieuses ou des perles. Quoique j'aime beaucoup les perles. Et en fait, depuis lundi, je gère des crises personnelles au travail. Pas les miennes. Je sais que je ne deviendrai pas pirate. Une de mes collègues est étrangère et se bat pour juste obtenir un récépissé pour sa demande de visa de la part de la préfecture. Sinon, elle devra quitter le territoire français. Ça fait 5 jours qu'elle ne dort pas, voyant l'échéance. Une semelle qu'elle remue ciel et terre pour que les RH fassent leur boulot. Pas de contrat, pas de visa. On a fait appel à différents réseaux, mettre toute la planète en copie pour qu'enfin les RH fassent leur taf. Ce n'est pas encore gagné, mais c'est déjà ça. Une de nos collègues lui a conseillé un avocat pour plaider parce que la situation est simplement abusive. Et même si venant de l'envers du décor, je peux comprendre le retard, c'est juste que c'est un passe-droit un peu menaçant de la part des agents préfectoraux, déchirer la carte de séjour qui est juste insupportable, et de dépendre de conditions extérieures qu'on n'a pas créées. Puis, il y a aussi cette autre collègue qui me confiait ses bobos à l'âme, et encore une autre qui avait besoin d'un coup de main parce qu'elle ne savait pas utiliser tel logiciel. Et je me souviens que mon rôle ne consiste pas à exécuter des tâches rébarbatives. Être assistante, c'est aussi être une épaule et une oreille. Un soutien quand ça ne va pas et qui dépasse largement le cadre de l'assistance. Comprenez ce mot comme vous voudrez. Non, vraiment, pour une ex-pirate, un des plus beaux trésors que l'on puisse trouver, c'est la solidarité et du lien social. Peut-être que lundi vaut parfois le coup. Peut-être qu'on peut pirater ou détourner les idées par d'autres moyens, qui sait. Et après, relation de cause à effet, la solidarité, le soutien moral provoqueraient moins de canicules, moins de débordements qui dégénèrent. Donc merci à tous ceux et à toutes celles dont ça reste la vocation. Attention, ça n'empêchera pas le PSG de gagner une nouvelle fois. Allez, salut, bonsoir.
Super, merci Eve pour cette chronique sur les lundis. Et c'est la fin de cette matinale de 19h, 93.9 FM.